Sur l'actualité, avec Orange Monnaie, pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et il est 8h40 en Côte d'Ivoire où les candidats aux élections législatives ont jusqu'à jeudi pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale. En tout cas, le FPI, l'ancien parti présidentiel qui avait boycotté les précédentes législatives mais aussi les municipales, les régionales et le référendum constitutionnel du mois dernier, eh bien le FPI n'a pas réussi à s'unir. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, le parti est déchiré par une crise de succession avec d'un côté une branche dirigée par Pascal Affine-Guessant et de l'autre, la frange menée par Abdourahmane Sangaré, et ce dernier persiste dans sa logique de tout boycotter. Les conditions techniques, politiques et sécuritaires ne sont pas réunies, dit-on, chez les pro-Sangaré pour que ces élections soient équitables. Donc cette frange va boycotter les élections législatives. En revanche, Pascal Affine-Guessant veut rompre avec la politique de la chaise vide. Alors que vous inspire justement le retour d'une partie du FPI dans le jeu politique ivoirien ? À quoi a servi la stratégie du boycott toutes ces dernières années? 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de commentaires sur la page Facebook de l'émission. Boris nous dit: quelle que soit la raison qui motive la branche Sangaré, la stratégie du boycott est la plus stupide qu'il soit. En désertant l'hémicycle, ils perdent toute opportunité de contrôler l'action du gouvernement et d'influencer le vote des lois. C'est dans l'hémicycle que semaine les vrais débats politiques, nous dit Alpha également sur Facebook. En refusant de siéger au Parlement, on risque de devenir l'ombre de soi-même, une coquille vide. Raphaël, vous êtes au standard, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan et vous êtes content qu'une partie de l'opposition revienne dans le jeu politique?
Oui, je suis vraiment très content et je salue la sagesse qui habite Affine-Guessant. Je pense que c'est vraiment lui au niveau du FPI qui mène une politique raisonnée et vraiment lucide. Ce n'est pas en pratiquant le boycott tout azimut, en refusant de participer aux consultations populaires que on parvient, comme l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, au pouvoir. Je pense que la fronde de M. Abdourahmane Sangaré gagnerait en sagesse en s'unissant à Affine-Guessant pour conquérir le pouvoir d'État dans une opposition forte et démocratique.
Et la Côte d'Ivoire a besoin d'une assemblée nationale multicolore. Aujourd'hui, elle est monocolore, oui, puisque, je le rappelle, 90% des députés sont dans la mouvance présidentielle.
Oui, vous avez parfaitement raison, Juan, parce que vous voyez, la division ne servirait pas du tout la cause du FPI. On ne peut pas bâtir un parti, ne serait-ce que réduire ce parti-là à la vie d'un être humain, c'est-à-dire à Laurent Gbagbo. C'est vrai, c'est déplorable tout ce qui est arrivé. Le monsieur, il était à la haie. Mais je pense que pour sa mémoire même et pour le travail qu'il a abattu en tant que peut-être fondateur du FPI, les enfants de ce parti devraient s'unir pour mener à bien le combat qu'il a lui-même initié avant de se retrouver à la haie.
Donc vous dites, donc Raphaël, si je comprends bien, vous dites qu'on peut à la fois lutter pour la libération de Laurent Gbagbo et en même temps participer aux élections.
Exactement. Et la meilleure lutte même serait déjà de montrer la représentativité du FPI sur l'échiquier politique national en allant aux élections, en gagnant des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais vous donner juste un petit exemple. À Boaké, je ne sais plus exactement en quelle année, mais le PDCI a perdu un de ses plus grands bastions et des bastions, je dirais, légendaires depuis Boaké, parce que, tout simplement, un indépendant et un maire qui était là, sortant, qui était du PDCI, ont décidé d'aller en rang dispersé. Voilà que M. Fanny Ibrahima du RDA a fini par gagner Boaké. Mmh. Donc, il faut vraiment aller. Il y a des régions de la Côte d'Ivoire, quand même, qui sont acquises au FPI et à l'opposition. Je ne suis pas pour le boycott, mais regardez un peu tout simplement le boycott quand il a été suivi au niveau de, comment on appelle, de la constitution.
Du référendum constitutionnel, oui, le mois dernier.
Vous voyez que, oui, il n'y a eu que 42% qui sont allés aux élections, ça, ce n'est pas vraiment la majorité des Ivoiriens, vous comprenez? Il faut pouvoir prouver maintenant dans les urnes que cette majorité qui est restée sans pouvoir voter est vraiment acquise à votre cause.
Oui, en tout cas, la branche de Pascal Affine-Guessan présentera 210 candidats sur les 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Merci Raphaël d'avoir lancé le débat. Achille, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous dites que la stratégie du boycott est un suicide politique.
Oui, je le dis, je le pense, je le dis parce que je pense que Laurent Gbagbo lui-même disait, je cite, que si dans sa lutte il devait tomber, que les autres l'enjambent et qu'il continue la lutte. Et je pense que la meilleure manière de continuer la lutte de Laurent Gbagbo, c'est un peu monter la représentativité du FPI sur l'échiquier politique. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui est en face de vous s'il ne sait pas qui vous êtes et si vous-même vous ne savez pas ce que vous représentez. Donc je pense que le FPI gagnerait plus à prendre part au débat politique en participant aux différents scrutins, en montrant aux yeux du pouvoir ce qu'il vaut. Si le pouvoir sait ce que vaut le FPI dans les urnes, le pouvoir peut prendre le FPI au sérieux. Mais si le FPI ne participe à aucun combat politique, à aucune lutte, en restant dans ses chaises, je pense que le FPI ne gagne rien à le faire.
Et sur Facebook, Achille, Lise Marie nous dit « Il faut être logique. Quand on ne reconnaît pas la Troisième République, on ne participe pas à une élection. » Effectivement, le FPI a appelé à voter, à boycotter le référendum constitutionnel le mois dernier. Depuis, la Côte d'Ivoire est donc entrée dans la Troisième République. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre « on ne reconnaît pas donc cette Troisième République, mais malgré tout, on décide de participer au scrutin ?»
Mais le problème, c'est que vous ne reconnaissez pas la Troisième République, mais vous avez votre passeport ivoirien, vous jouissez de vos droits ivoiriens, du fait que vous êtes dans la Troisième République, que vous le vouliez ou non. Donc je pense qu'au lieu de faire la politique de l'autruche, il faut regarder la réalité en face et de faire ce que la réalité impose. On dit quoi? La politique, c'est la saine appréciation des réalités quotidiennes. Donc je pense que si le FPI peut montrer à qui est en face, à celui qui est en face ce qu'il vaut, la meilleure chose, c'est de prendre part au scrutin et dire au RDF, voilà, je représente 25% des Ivoiriens, je représente 30% des Ivoiriens, et on pourra savoir qui est qui.
Voilà. Merci Achille, bonne journée à Abidjan, la diaspora nous appelle de Paris et d'Europe, également notamment à Londres. Kevin, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous comprenez, vous, la stratégie du boycott et vous la soutenez même?
Oui, non, du mouvement national Charles Blé Goudé déjà, je vous salue, je salue le peuple pour tout l'effort qu'il fournit jusqu'à cette heure-ci en maintenant cette pression sur le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Nous comprenons la position de l'opposition, tout simplement parce que les conditions, elles ne sont pas réunies pour aller à une élection juste, transparente et crédible.
C'est-à-dire
Monsieur Youssouf Bakayoko, à la tête de la commission dite électorale indépendante, ne devrait plus être à la tête de cette institution. Il y a le fait que Alassane Dramane Ouattara est parvenu à la tête du pouvoir par tous les moyens que nous connaissons.
Bon, Kevin,
ne fait aucun effort.
Kevin, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes dans un meeting politique, vous êtes juste sur l'antenne d'RFI et on discute ensemble. Vous dites que les conditions ne sont pas réunies. Argumentez, donnez-moi un ou deux exemples.
Et c'est ce que je vous dis. M. Youssouf Bakayoko ne devrait plus être à la commission électorale indépendante.
D'accord, ça vous l'avez dit deux fois, mais argumentez, expliquez-moi pourquoi.
La loi dit que le président de la commission électorale indépendante est nommé pour 6 ans non renouvelable. Ça fait plus de 6 ans qu'il est à la tête de cette commission. Et Alassane Dramane Ouattara, au mépris de cette disposition, l'a maintenu à la tête de la commission. Ça, c'est d'un. Oui. Deuxièmement, la composition elle-même de la commission électorale indépendante, elle est déséquilibrée. Troisièmement, il y a l'insécurité dans le pays qui fait que les militants de l'opposition ne peuvent pas aller sur l'ensemble du territoire national pour mener campagne. Nous l'avons vu tout récemment d'ailleurs.
Oui. Enfin, excusez-moi de vous contredire, les opposants de la branche Pascal Affine-Guessan vont faire campagne au moins dans 210 circonscriptions. Le pays en compte 255. Donc il est possible. Excusez-moi, je finis ma phrase, Kevin, et vous poursuivrez dans un instant. Donc il est possible de mener campagne lorsqu'on est dans l'opposition.
Lorsque quelqu'un est choisi comme opposant par le pouvoir en place, vous estimez qu'il est un opposant crédible? Lorsque M. Pascal Affine-Guessan appelle à boycotter le référendum actuel sur la base de laquelle cette élection sera organisée, et qu'après il vient pour dire « allons-y aux élections », vous pensez qu'il est crédible? Voilà.
Donc pour vous, il y a contradiction dans le camp de Pascal Afinguessan, et vous estimez même que Pascal Afinguessan est l'opposant choisi par Alassane Ouattara. J'avais vu un commentaire de la sorte sur la page Facebook de l'émission. Je vais essayer de le retrouver pour le lire, évidemment, dans un instant. Il y a tellement de réactions, je ne le trouve pas tout de suite. Merci d'avoir appelé, Kevin. Bonne journée à Londres. Sylvestre, vous êtes à Paris. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous disiez au Standard, autant en 2011, le boycott était justifié, autant en 2016, il faut absolument participer et retourner dans le jeu politique.
En effet, parce que je crois que le drame pour certains membres du FPI, c'est que pour eux, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en 2011. Et malheureusement, il faut évoluer avec les choses. Et en plus, concernant M. Sangaré, c'est que il a un dilemme. Il y a son ego. Faut-il aller aux législatives sous la bannière d'Afinguessan ou il faut aller sous sa bannière? Alors, comme le pouvoir ne reconnaît qu'Afinguessan, il y a déjà ce drame-là qu'il est obligé de combattre.
Ouais. Enfin, le pouvoir ne reconnaît, excusez-moi, qu'Afinguessan, certes, mais la justice ne reconnaît que la branche de Pascal Afinguessan.
Oui, en effet.
Voilà, donc c'est important de le préciser, que ce n'est pas que le pouvoir, c'est aussi la justice.
La justice. Donc, Abdourahmane Sangaré a des difficultés de s'aligner derrière un président. Je crois qu'à la limite, quand on parle de réconciliation, il faut commencer dans son propre camp. Le FPI est incapable de se réconcilier avec elle-même. Elle veut que tout le monde se réconcilie avec elle. Et je crois que la politique de la chaise vide est la politique la plus désastreuse qu'un parti politique puisse faire. Le parti au pouvoir, le RDL, a vécu en 2002 en boycottant tout. Ils sont restés 10 ans dans la clandestinité. Et je crois que ça devrait inspirer et interpeller nos amis du FPI pour qu'ils comprennent que la politique de la chaise vide n'est pas la meilleure des politiques. Il faut aller défendre ses idées, ses arguments, et en obtenant des postes électifs.
Oui, et puis ça permet aussi au FPI de mesurer son poids électoral.
Son poids électoral, je l'ai dit que M. Afi allait au présidentiel, il a eu 9%, il a déjà joué son poids électoral. Il a fait une erreur technique en n'allant pas au référendum, mais je crois que la sagesse d'un homme, c'est de savoir reconnaître ses erreurs et de rebondir. Et là, quand il rebondit, ça veut dire qu'il a de l'intelligence et de la suite dans les idées.
Alors, c'est votre analyse. Kevin disait exactement le contraire il y a quelques instants. Il nous appelait de Londres. Et Anselme, sur Facebook, il nous dit « Une partie de l'opposition, évidemment référence à celle de Pascal Afinguessan, est manipulée par le pouvoir en place. Le camp de Pascal Afinguessan est une marionnette qu'utilise Alassane Ouattara pour diviser l'opposition et mieux régner. » Vous en pensez quoi, Sylvestre ?
Non, je n'en pense rien. Je crois qu'il faut arrêter de se dire que quand Afinguessan pose un acte, c'est quelqu'un qui l'invite à le faire. Il faut comprendre que tout parti au pouvoir essaie de diviser un parti politique. On a vécu en Côte d'Ivoire, on sait que quand le président Gbagbo était au pouvoir, le RDR était manipulé parce qu'il y avait Zemmour qui est allé créer son parti, qui était le numéro 2 du RDR. Le PDC était dit, je crois qu'il faut arrêter de voir que l'ennemi est en face.
D'accord.
Et ne pas reconnaître ses propres turpitudes.
Merci Sylvestre, bonne journée à vous. Un détour rapide sur la page Facebook de l'émission. Augustin, le boycott à tout prix est un suicide politique. C'est ainsi que notre Assemblée nationale est devenue monocolore et c'est ainsi que l'avant-projet de nouvelle constitution est passé comme une lettre à la poste. À cette allure, nous dit cet auditeur, le front si populaire risque de devenir très impopulaire. Bonjour Edgar.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan.
Oui.
Les conditions ne sont pas réunies pour une élection parfaite, mais il faut malgré tout y participer, c'est ce que vous disiez au Standard.
Tout à fait. Juan, vous savez, en Afrique, les conditions ne seront jamais réunies pour avoir une élection parfaite. Que chaque électeur ait un observateur étranger, on ne reconnaîtra jamais le perdant, il dira toujours qu'il y a une fraude quelque part. Bon, il faut quand même qu'on puisse construire notre jeune démocratie en participant à toutes les élections qui se fassent. Aujourd'hui, le FPI n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Mais le débat politique, c'est pas dans la rue, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. On a vu au référendum, il y a certains députés du PDCI qui ont voté non. Mais si les députés FPI y étaient, cela allait apporter un poids à ce nom-là. Donc il ne faudrait pas qu'ils restent dans leur coin pour dire non, à chaque fois il faut boycotter. Comment on fait le boycott, pardon, mais c'est un suicide politique.
Vous avez l'impression que depuis 2011, le fait d'avoir tout boycotté, à l'exception de la présidentielle pour Pascal Affine-Guessan, finalement, ça a été une grave erreur stratégique pour le FPI ?
C'est une erreur très grave, une erreur stratégique pour le FPI. Mais le RDA a payé sa cache en 2000, on n'a pas aux élections législatives. Ils ont compris. Aujourd'hui, le RDA, même s'ils perdent le pouvoir, mais ils ne feront jamais, 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 ils ne prendront jamais cette stratégie-là. Donc je crois que le FPI gagnerait mieux d'abord à s'entendre et à participer à tous les scrutins. Ouais. Comme ça, le débat contradictoire qui va se passer à l'Assemblée nationale, mais le FPI aura son mot à dire.
Alors justement, vous parlez de débat contradictoire, on a Paul Axel qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Paul Axel.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Merci de nous contacter. Vous comprenez, vous, le boycott ?
Naturellement, moi, je le comprends parce que, figurez-vous, le vrai FPI, pas celui qui est à la solde, qui est caporalisé par le régime Ouattara, ne peut pas participer à une quelconque échéance électorale, mais tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Les revendications, c'est quoi ? C'est la libération de tous les détenus politiques. Figurez-vous, aujourd'hui, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan est devenue le siège du FPI tendance à Abdramane Sangaré. On demande comme ça le dégel des avoirs. On demande tout simplement le retour de tous les exilés politiques. C'est tout ce que le FPI demande. C'est pas la mer à boire. Vraiment, il n'y a pas de mystère à faire là-dessus. Ouais.
Donc ça veut dire que il y a Marilyn qui nous dit sur Facebook, les mêmes griefs qui ont justifié le boycott de la présidentielle persistent, donc on ne voit pas pourquoi on participerait cette fois-ci aux législatives. Donc vous êtes sur le...
Évidemment. Et puis nous ne nous reconnaissons même pas dans cette république, là, dans cette constitution. Oui. Donc ça ne servira à rien de participer.
Oui, enfin vous ne reconnaissez pas, donc vous êtes militant, j'imagine, du FPI, à vous entendre, Paul Axel ?
Oui, de la tendance à Abdramane Sangaré.
Voilà, effectivement, puisque vous plaidez, vous, pour le boycott. Mais pourquoi ne pas avoir appelé à voter non plutôt que d'avoir appelé à boycotter ? Quel est l'intérêt du boycott ?
Mais déjà, c'est pour montrer à M. Ouattara qu'il est impopulaire, que sa politique est impopulaire. Et puis, nous n'allons pas faire comme le baron Pierre de Coubertin qui disait que l'essentiel, c'est de participer. On participe quand les conditions sont réunies. Quand on a une CEI qui est caporalisée par le régime Ouattara, dans ce même qui établ même cette institution, la même somme à la solde de ce régime, comment voulez-vous qu'on participe ? Ouais. C'est ça l'enjeu du débat.
Bon. Merci Paul Axel. Bonne journée à vous. On va terminer certainement avec Mohamed. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue, on vous écoute sur la stratégie de l'opposition.
Oui, moi je crois que l'opposition est en train d'être lucide. L'opposition, la branche Affine-Guessan est en train d'être lucide, puisque ça ne sert à rien de faire la politique de la chaise vide. Pendant que, dans ce cas, vous ne pouvez pas participer à aucun débat. Les marches et autres réprimandes ne participent pas. Ils sont en train d'être lucides parce que maintenant, ils veulent participer, ils mènent une opposition participative. Au lieu d'être dans du négatif, non. Mmh. Vous voyez ? Ils auraient été à l'Assemblée, qu'ils auraient mis des garde-fous pour que le projet de loi ne passe pas comme une lettre à la poste. Vous voyez ? Je pense que, franchement, ils sont en train d'être lucides. Et la politique de la chaise vide, comme je le disais, ça n'a jamais payé en Afrique.
Ouais. Avraman, sur Facebook, nous dit « L'absence du FPI à l'Assemblée a fortement contribué à l'adoption de la nouvelle Constitution. Le parti devrait donc en tirer les conséquences. » Kobrou nous dit que le poids du boycott est sans effet et nous l'avons déjà expérimenté. Inutile donc de le reconduire car notre absence à l'hémicycle a donné carte blanche à Alassane Ouattara pour faire passer son projet de constitution sans aucune véritable opposition. J'adhère donc pleinement à l'option de Pascal Affine-Guessan. Le débat est loin d'être clos. Les candidats, en tout cas, ont jusqu'à jeudi pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale. Ensuite viendra la campagne qui débutera le 10 décembre. Une campagne assez rapide. Hein. Elle ne durera que 6 jours et le scrutin aura lieu donc le 18 décembre, à suivre évidemment sur notre antenne avec nos correspondants en Côte d'Ivoire. Demain, nous parlerons du Gabon, 2 mois et demi après l'élection présidentielle. Comment sortir de l'impasse politique ? L'opposant Jean Ping se présente toujours comme le président élu. Pas question donc pour lui d'accepter le dialogue national proposé par le président Ali Bongo. Le reste de l'opposition est d'ailleurs sur la même ligne que Jean Ping. Mais ce matin, vous l'avez certainement entendu sur RFI, le numéro 2 de l'opposition, Casimir Oyemba, n'a pas exclu un dialogue avec le pouvoir. Ce sera notre débat de demain. Belle journée à tous.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au 10 144 10.
Bonjour Claire Edon.
Bonjour Juan.
Priorité santé.